Chapitre 71. Poussé par des vents magiques, le chasseur volait au-dessus des eaux plus qu'il y voguait. N'ayant pas grand-chose à faire, l'équipage en profitait pour réparer les dégâts provoqués par le serpent de mer. Pourtant, le bateau ne rallierait jamais Sérimundi assez vite pour satisfaire Nietzsche. Après avoir vu l'armada ennemie, elle ne doutait plus un instant que les défenses ne tiendraient pas. Cité bien plus grande, Tanimora aurait peut-être une chance. Comme Efren et Larricane, Sérimundi serait submergé et rasé. Certes, mais la ville restait au minimum 10 fois plus grande que Renda-sur-Bay. En quelques jours, une évacuation serait impossible. Un scénario perdant-perdant. Campée à la proue du bateau avec Nathan, Bannon et Lila, la magicienne débattait de stratégie. Même avec de l'avance sur les Norokai, il n'y aurait pas assez de temps pour se préparer à l'invasion en supposant que ce soit possible. Pourtant, il devait bien y avoir un plan qui tienne debout et laisserait quelque chance à la ville. Juste avant les récifs qui défendaient l'entrée du port, le chasseur croisa un des patrouilleurs. En passant, Nietzsche mit les mains en porte-voix et cria
« Embrasez vos balises! Les Norokai arrivent !»
L'équipage du patrouilleur largua la balise et enflamma sa cargaison de branches vertes afin qu'une colonne de fumée prévienne les sentinelles. D'autres patrouilleurs virent le signal et larguèrent aussi leurs balises. Bientôt, le gong retentit dans le lointain. Du coup, Sérimundi était déjà sur le pied de guerre lorsque le chasseur se faufila entre la Vierge des Brumes et 4 autres navires cuirassés pour entrer dans le port. Sur un quai encore en réparation, Otto, Olga, Ganli et Stracker accueillirent Nietzsche et ses compagnons.
« Les Norokai doivent être 2 jours derrière nous !» annonça Bannon. « C'est le branle-bas de combat !»«
Nous sommes aussi bien préparés que possible !» répondit Otto. Tout le monde est armé et entraîné, et les bateaux sont renforcés de plaques de métal. Nous nous attendions au pire.
« Vous avez fait des efforts admirables, » dit Nietzsche. « Mais ça ne suffira pas pour sauver Sérimundi. »
Le capitaine Ganli ne cacha pas son indignation.
« Ne nous sous-estimez pas. Les habitants ont conscience que c'est l'unique chance de préserver leur ville. Ils ne se rendront pas sans combattre. »«
Les Norokai ne savent pas ce qui les attend, » affirma Otto.
« Peut-être, mais vous finirez par être vaincus. »
insista Nietzsche.
« Même si vous leur infligez de lourdes pertes, les Norokai raseront la ville. Les défenses de Tanimora sont 10 fois plus solides. Une vraie flotte de guerre attendra les galères et une garnison entière de Daran combattra auprès de milliers de gardes communaux, sans même parler des réfugiés. Oron, Perry et les autres détenteurs du don doivent déjà être sur place avec le général Zimmer. Notre seule chance, c'est d'attirer l'armada ennemie à Tanimora, où elle sera battue. »
« Et pour Sérimundi ?» demanda Otto. « Que devrons-nous faire ?»« Vous n'aurez peut-être pas besoin de vous battre, » dit Nathan. « Nous avons eu une idée pour protéger votre cité. En fait, tout le mérite en revient à la dame Olga. »
La magicienne d'Ildakar ne cacha pas sa surprise. Au lieu de ses tresses, dont une avait été coupée par un ennemi, elle portait les cheveux défaits et ça la rajeunissait.
« Je vous ai inspiré. Voilà qui m'intrigue. »
Otto regarda alternativement Nietzsche et Nathan.
« J'aime l'idée d'échapper au pire, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. »
Sans répondre, Nietzsche s'éloigna du quai. Puis elle sonda les collines environnantes et les quartiers de la ville qui s'étendaient au-delà du secteur portuaire très bien protégé. Sa mémoire et son imagination ne l'avaient pas trompée.
« Oui, » dit-elle, « c'est possible. »
Intriguée, Otto et les autres suivirent la magicienne. Devant les premiers entrepôts, elle se retourna, puis regarda le port et l'ouverture qui donnait sur la mer.
« Les îles des Norokai sont très loin au sud, donc ils ne connaissent pas cette région. Avant l'attaque de Kor, Sérimundi n'avait jamais dû subir un assaut. Donc, Calvert ne sait presque rien de la ville, et personne n'a pu lui en parler puisque Kor et ses pillards sont tous morts. En d'autres termes, il ne sait pas exactement où se trouve Sérimundi. »
Nathan lissa le devant de sa veste et tira sur sa cape comme s'il s'apprêtait à monter en scène.
« Si la chance nous sourit, nous inciterons les Norokai à passer devant Sérimundi sans s'arrêter. »
« L'idée, » dit Lila comme s'il s'agissait d'un jeu d'enfant,
« c'est de camoufler la ville. »«
La camoufler ?»
s'étrangla Ganli.
« En faisant quoi ?»«
Si le temps s'y prête, les Norokai ne verront même pas la cité. » Pour venger son dieu serpent que nous avons tué, Calvaire poursuit le chasseur. En d'autres termes, c'est nous qu'il veut. En le provoquant, nous l'inciterons à passer deux nuits devant la ville sans la voir.
Comment cacher une cité ?
Fit Otto. Il retira son chapeau et s'épongea le front.
Je ne saisis toujours pas.
Olga, elle, eut un petit sourire. Regardant Ganli et Stracker, Nietzsche vit qu'ils étaient prêts à suivre ses ordres.
Si d'autres navires cuirassés fuient avec nous, Calvaire les poursuivra aussi.
Il veut également ma peau, précisa Bannon, et celle de Lila. Il suffira d'occuper assez les Norukai pour qu'ils ne cherchent pas Sérimundi, donc il faut que la ville soit cachée.
Camouflée, quoi, intervint Lila qui semblait avoir hâte d'entrer dans le vif du sujet. Nathan pointa un index sur Olga.
Une détentrice du don telle que toi, très chère, peut invoquer un brouillard qui occultera l'entrée du port. Tu l'as déjà fait après Renda sur Bay et aussi à Surplomb du Monde. Si les pillards ne savent pas où chercher Sérimundi, ce subterfuge fera l'affaire. Mais avant, nous devrons harceler ces sauvages et faire en sorte qu'ils passent de nuit devant cette partie de la côte.
Nietzsche se tourna vers Otto.
Chaque soir, extinction de toutes les lumières, et ce jusqu'au passage des Norukai. Pas de lanterne, pas de feu dans les cheminées, absolument rien. Quand les galères passeront, Sérimundi devra être plus noir que la nuit.
Ma ville veut se battre,
objecta Otto.
Vous nous suggérez de nous cacher et de laisser Tanimura lutter à notre place? Magicienne, vous avez dit que toutes les villes côtières devraient participer à l'effort de guerre. Sérimundi ne peut pas se reposer sur Tanimura. Nous ne sommes pas des lâches.
Je ne vous propose pas de ne rien faire.
Une main posée sur le pommeau de sa splendide épée, Bannon enchaîna avec un grand sourire.
Après le passage des galères, le reste de votre flotte cuirassée pourra les suivre jusqu'à Tanimura, puis les prendre à revers quand la bataille aura commencé.
Si vous les suivez d'assez loin, ajouta Lila, Calvaire ne se doutera de rien.
Un grand rideau de brume, fit Olga pensive. Oui, c'est dans mes cordes.
Elle regarda la statue de Mère la Mer.
Et ce ne serait qu'un début.
Le lendemain, sachant que l'armada approchait à toute vitesse, le chasseur appareilla en compagnie de 4 navires cuirassés. Plus au sud, les patrouilleurs se préparaient à larguer leurs balises dès qu'ils auraient repéré les Norukai. Olga regarda partir les 5 navires. Bientôt ce serait à son tour de jouer. Sur ordre d'Otto, des gardes civils sillonnaient la ville pour interdire tout allumage de feu, de lanternes, voire de bougies, même derrière des volets fermés. La nuit tombée, Sérimundi devait être invisible. Un peu avant le soir, les sentinelles postées sur la falaise repérèrent des colonnes de fumée au sud. Encore quelques heures, et l'armada arriverait. Prêt pour l'interception, le chasseur et ses 4 complices attendaient au large. Dès que l'armada les aurait vus, ils fonceraient vers le nord, entraînant Calvaire en direction de Tanimura. Plus tôt que prévu, les 5 appâts passèrent devant le port, leurs voiles gonflées par des vents qui n'avaient rien de naturel. Alors que la nuit tombait sur la cité privée d'illumination, Olga se mit à l'œuvre. Campée sous la statue de Mère la Mer, elle força une infinité de gouttelettes à monter de l'océan, puis elle les transforma en un épais rideau de brume. D'abord pas plus dense que de la buée, cette nappe s'épaissit et s'opacifia. Lentement, elle se mit en place, occultant parfaitement le port. Au-delà, pas une seule étincelle n'aurait pu trahir la présence d'une cité. Avec reconnaissance, Olga pensa aux familles qui se terraient dans le noir, se réconfortant comme elle le pouvait dans le silence surnaturel de cette nuit. Chez elle, Olga avait vu Ildakar disparaître derrière le linceul de l'éternité. À présent, elle devait aider une autre ville à se cacher, mais d'une façon bien différente. Dans la nuit, l'ivresse de la poursuite au cœur, les pillards ne verraient qu'une ligne de côte sous un manteau de brume. En plissant les yeux, Olga parvint à distinguer des voiles un peu moins foncées que la nuit. Une meute de galères collait au basque du chasseur et de ses compagnons. Une armada de ce genre avait de quoi impressionner, mais Olga se souvenait de Renda sur Bay. Cela dit, ça justifiait pleinement le plan de Nietzsche. Si héroïques que fussent les défenseurs, les Norukai les auraient submergés avant d'investir la ville et de la dévaster. Même si la stratégie de la magicienne était brillante, Olga avait envie d'y ajouter sa patte. Pendant que la brume se mettait en place, elle prit un canot et sortit du port. Les courants malmenant son embarcation, elle recourut à son don pour la stabiliser tandis qu'elle longeait les récifs. Sans faiblir, elle souqua jusqu'à l'endroit et lui parut parfait d'installer un piège mortel. Invoquant une petite boule de lumière, une myriade d'étincelles étroitement serrées les unes contre les autres comme les pétales dans un bouton de rose, elle la déposa au milieu des rochers, à un endroit que les projections d'eau n'atteignaient pas. En réalité, ces flammèches n'avaient rien d'un feu naturel. Au fil des minutes, elles grandiraient et produiraient une lumière si vive que quelques-unes des galères, cédant à la curiosité, viendraient presque sûrement se fracasser sur les récifs, un aller simple vers le royaume des morts pour leur équipage. Dès qu'elle eut fini, sûre que son sortilège fonctionnerait, Olga retourna dans le port à l'abri du rideau de brume. Au milieu des récifs, son soleil miniature commença à gagner en puissance.
À la proue de sa galère, Lars lâcha une bordée d'injures à l'intention des navires ennemis. En dernière position, le chasseur semblait narguer les Norukai. Le capitaine se souvenait très bien de Nietzsche, qu'il avait croisé à Ildakar. À présent, la magicienne blonde narguait la glorieuse armada en la bombardant d'éclairs magiques. Pour le roi Calvert, cette poursuite passait avant tout. Sur les galères, les rameurs donnaient tout ce qu'ils avaient, propulsant l'armada à une vitesse qu'aucun vent n'aurait pu lui permettre d'atteindre. Le chasseur et ses cuirassés fonçaient vers le nord à une vitesse tout aussi hors du commun. Du coup, la magicienne devrait bientôt cesser ses attaques pour se concentrer sur les vents. Avec les autres détenteurs du don, elle harcelait l'armada depuis le coucher du soleil.
Mais la vermine avait dû se résigner à fuir, sans doute parce que la flotte de Calvert la terrorisait. De toute façon, les éclairs, inoffensifs ou presque, avaient joué le rôle d'aiguillon et rien de plus. Enragés, les Norukai chargeaient comme des ours furieux et rien ne les arrêterait jusqu'à la curée.
« Plus vite, les rames !»
beugla Lars.
« Vous êtes des femmelettes ou quoi ?»
Les rameurs, aussi bien des femmes que des hommes, serrèrent les dents et redoublèrent leurs efforts. S'abattant de plus en plus vite, les rames semblaient vouloir fracasser l'eau plutôt que la fendre.
Pas question de perdre des proies de vue à ce moment de la journée, surtout quand du brouillard se levait sur la côte.
Alors que les galères du roi fonçaient au large, Lars et ses 10 bateaux préféraient caboter, même si c'était plus risqué en pleine nuit. Visé par une sentence de mort, comme son camarade Cor, Lars était condamné à combattre jusqu'à ce qu'il crève.
Du coup, pourquoi se montrer prudent?
Prise entre la nuit et le brouillard, ses galères avançaient à l'aveuglette, mais sur la côte, Lars captait le bruit de vagues s'écrasant contre les rochers.
« Plus vite! La magicienne est devant nous! Je veux la capturer moi-même! »
« Le roi Calvert l'offrira-t-il en sacrifice au dieu serpent ?»
demanda un guerrier.
« Il n'y a plus de dieu serpent !»
marmonna Ura, une montagne de femmes beaucoup trop laide, même pour Lars, pourtant peu regardant. Le crâne rasé afin que rien ne la distingue des mâles, sinon son opulente poitrine, cette matrone aurait fait fuir un dragon.
« Le dieu serpent !»
continua-t-elle.
« C'est nous, les sacrifices, ils nous sont destinés désormais. »«
À condition de rattraper nos proies !»
grogna Lars. Le maître des rames tambourinant à tour de bras, les galères entrèrent dans la nappe de brouillard. Debout, près de la figure de proue, un marin cria de surprise et tendit un bras.
« Lars, regarde, on dirait un phare !»
Une vive lumière parvenait à percer la brume. Là où elle brillait, il ne pouvait pas s'agir de la lune.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Ura, fasciné comme tous les autres Norukai.
« De la magie !»
marmonna un guerrier.
« Bien entendu, crétin. Au cas où ça t'aurait échappé, on poursuit une magicienne, et on l'a trouvée, je crois. La garce se cache par là. Cap sur cette lumière, bon sang !»
Avec un bel ensemble, les 10 galères changèrent de direction pour fondre sur leur cible. Comme la flamme d'une bougie sur un papillon, l'étrange balise attirait irrésistiblement les Norukai.
« Préparez-vous au combat !»
ordonna Lars. Les guerriers saisirent leurs lames et leurs massues et se ruèrent à la proue, prêts à passer à l'abordage dès qu'ils seraient à portée du maudit bateau de pêche au Kraken. Ébloui par la lumière, Lars dut se protéger les yeux. Incapable de dire de quoi il s'agissait, il lui semblait quand même que la balise tentait de fuir. Alors que les premières galères semblaient toucher au but, des craquements sinistres retentirent. Le temps que Lars ait additionné 2 et 2, son propre bateau encaissa un rude choc.
« Des récifs !»
brailla Ura juste avant d'être propulsé par-dessus bord par l'impact. Des rochers déchiquetés
éventrait déjà la coque. Lars s'écrasa contre le bastingage. Se percutant les uns les autres, plusieurs marins s'étalèrent en braillant de rage. Partout, des coques se déchiraient contre les fichus récifs. Comme pour narguer ses victimes, la balise scintilla comme jamais, puis se dissipa, laissant les Norukai dans la nuit et la brume. Incapable de s'orienter, une galère percuta celle de Lars à tribord. Les rames cassées nettes, la coque se fendit dans un concert de craquements. Blessé au flanc et au bras gauche, Lars bascula dans le vide tandis que sa galère s'inclinait dangereusement. De toute façon, elle était condamnée puisqu'elle prenait l'eau de toutes parts. S'écrasant dans l'océan, le capitaine tenta de nager, mais avec un seul bras, le gauche étant cassé, ça se révéla impossible. Alors qu'il percuta de plein fouet un rocher, il vit des dizaines de marins et de guerriers qui tentaient de survivre en s'accrochant aux débris à leur portée. 7 galères au moins s'étaient fracassées contre des récifs. La balise, comprit Lars, était un piège. Blessés ou morts, des centaines de Norukai finiraient désarticulés comme des pantins au milieu des récifs. De plus en plus opaque, la brume empêchait de voir ce qui se passait. Du coup, d'autres galères venaient se suicider dans cet enfer où éprônaient, sans le vouloir, des bateaux amis. Lars essaya de crier, mais de l'eau et des algues s'engouffrèrent dans sa bouche. Quand il toussa, la douleur fulgurante dans son flanc lui apprit qu'il était salement touché. Perché sur un rocher couvert d'algues, donc plus glissant que de la glace, Ura tentait de conserver son équilibre. Quand une main se referma sur sa cheville, elle cria et se débattit, mais son agresseur la fit rebasculer dans l'eau. Son agresseur ? Partout, des cris retentissaient et tous ne sortaient pas de la gorge des Norukai. Les naufragés subissaient une attaque. Alors qu'ils essayaient de se mettre en sécurité sur les rochers, des ennemis invisibles les tiraient en arrière. Lars plissa les yeux, résolu à savoir qui agissait ainsi.
« Qui êtes-vous ? »
rugit-il. Un bras cassé, il avait perdu sa lame en tombant, pourtant il serra son poing intact.
« Où êtes-vous, bande de salopards ?»
Des silhouettes humaines couvertes d'écailles se faufilaient entre les naufragés, leurs bouches garnies de dents pointues prêtes à les déchiqueter. À présent, certains Selka se hissaient sur les rochers pour achever les naufragés blessés. Ces monstres avaient suivi l'armada, guettant une occasion. Et voilà qu'ils la tenaient. 3 hommes poissons fondirent sur Lars. En digne Norukai, il résista. Mais ses bourreaux eurent vite fait de lui ouvrir la gorge avant d'entraîner son cadavre sous l'eau, où il festoirait à leur aise.